Les années-lumière, édition du 1er août 2010. Eau potable contaminée à Shannon, près de Québec, le lien avec le cancer est remis en question. Bonjour, ici Yannick Villieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Bien content de vous retrouver pour cette édition qui commence avec vous, Gaëlle Lucia Berdou, et avec le sujet que je viens d'annoncer en surmanchette.
Oui, des experts remettent en doute l'idée que la présence d'un produit toxique dans l'eau de Shannon soit à l'origine de plusieurs cas de cancer.
Sophie-André Blondin, il y a de nouveaux joueurs dans l'espace, on le sait, et à quoi rêvent-ils?
La Chine, l'Inde et le Japon voient déjà bien la Lune. Ils rêvent entre autres à Mars et surtout à une collaboration internationale pour écrire la suite de l'histoire de l'homme dans l'espace.
Nous aurons ensuite le courrier des années-lumière, une question sur le recensement, tiens. Et puis la chronique avec en rediffusion cette semaine la douleur chez les nouveaux-nés, une chronique de Marie-Dominique Beaulieu. Deuxième heure. Je vais la commencer avec notre série sur la biodiversité. Cette semaine, la biodiversité à la ferme, la biodiversité des animaux domestiques. Nous irons ensuite à Québec pour une visite de l'exposition Copyright humain au Musée de la civilisation. Et nous terminerons l'émission avec l'auteur de la semaine. C'est vous qui le recevrez, Sophie-André.
Claude Gudin signe une histoire naturelle des sens. C'est aux éditions du Seuil.
Mais pour commencer donc, le dossier Shannon. Alors, cette histoire d'eau contaminée à Shannon, près de Québec, vous la connaissez sans doute. Elle remonte au début des années 2000, quand les citoyens de cette petite ville, de la banlieue, donc de la ville de Québec, près de la base militaire de Valcartier, ont découvert que l'eau qu'ils buvaient était contaminée depuis des années par un produit potentiellement cancérigène, le trichloroéthylène ou le TCE. Un produit dont on sait d'ailleurs qu'il cause des cancers du rein chez les travailleurs qui y sont fortement exposés en milieu industriel. L'histoire a d'ailleurs fait beaucoup de bruit, évidemment, Gaëlle Lucia Berdou, et on y revient aujourd'hui.
Oui, les puits, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Les puits des résidences de Shannon avaient été condamnés. Oui. Mmh. Par ailleurs, une résidente a intenté un recours collectif contre le gouvernement fédéral et contre les compagnies SNC-Lavalin et SNC-Technologie. Ce produit, le TCE, était utilisé comme puissant dégraissant industriel à la base militaire et se retrouvait éventuellement dans la nappe phréatique. Et il serait lié à des cas de cancer. C'est en tout cas ce qu'ont conclu plusieurs études menées depuis le début de cette affaire, notamment une qui concluait que les concentrations de TCE auxquelles avaient été exposés certains habitants qui vivaient dans une zone particulièrement contaminée, bien ces concentrations atteignaient des valeurs moyennes près de 40 fois supérieures aux normes canadiennes. De ces chiffres, l'auteur de cette étude calculait un risque de cancer, lui aussi supérieur à la moyenne.
Et ces conclusions sont maintenant au cœur d'un débat scientifique.
Oui, et le dernier grain de sel, c'est celui de l'Institut national de santé publique du Québec qui vient de publier des analyses, des révisions, si vous voulez, de deux des études sur lesquelles se fondent les citoyens de Shannon pour établir ce lien entre trichloroéthylène et cancer. Notamment, les experts de l'Institut affirment qu'ils sont incapables de reproduire ces calculs de contamination moyenne. Ils parlent même de faiblesses majeures, notamment parce que ces moyennes mène, selon eux, à un mauvais calcul du risque de cancer. C'est ce que nous explique Mathieu Valque, toxicologue à l'Institut national de santé publique du Québec.
Lorsqu'on calcule le risque cancérigène, à partir d'estimateurs de risque cancérigène communément reconnus par la communauté scientifique, il faut tenir compte d'une exposition moyenne durant toute la vie, puisque les estimateurs de risque cancérigène sont basés sur l'évaluation du potentiel cancérigène d'une substance si on y est exposé durant toute la vie. Donc, forcément, quand on a une exposition qui ne dure pas toute la vie, ce qui est le cas ici, il faut pondérer, si vous voulez, l'exposition reçue durant 10, 15 ou 20 ans, par exemple, en la rapportant sur la durée de vie totale, ce qui diminue l'exposition moyenne durant, jour par jour, si vous voulez. Et donc, si on ne fait pas cette correction-là, on surestime également le risque.
Donc, c'est ce que vous avez fait. Vous avez refait le calcul, vous, en faisant cette pondération.
Exact.
Et est-ce que vous arrivez à quelque chose de très différent?
J'arrive à un risque qui se situe dans l'ordre de un cas de cancer en excès sur 1 million d'habitants, soit une valeur 4 fois plus faible.
Donc, c'est 4 fois plus faible que ce qui était dans ce rapport, mais c'est quand même un cas sur 1 million. Est-ce que c'est beaucoup comme excès de cancer?
Disons que quand on établit des normes, par exemple, dans l'eau potable ou dans l'air, sur la base des valeurs de risque cancérigène, là, l'usage, disons, en toxicologie par la communauté scientifique en général, veut qu'on tolère, entre guillemets, un risque de 1 cas sur 1 million. Donc, j'arrive exactement à la valeur qui est généralement considérée comme acceptable, disons, entre guillemets, là, puisqu'on essaie toujours d'avoir le risque le plus bas possible, mais quand on établit des normes pour les substances cancérigènes, on se dit que c'est un risque de 1 cas sur 1 million, c'est considéré comme un risque très faible, très minime, qu'on tolère, qu'on accepte lors de l'élaboration des normes pour des substances cancérigènes. Et donc, j'arrive exactement à cette valeur-là, à quelques pourcentages près. Là.
Mathieu Valque de l'Institut national de la santé publique. Mais Gaël, bon, même si le risque de cancer, comme on vient de l'entendre, est relativement faible, reste que les habitants de Shannon ont quand même bu de l'eau contaminée pendant longtemps.
Oui, puisque même les calculs révisés par l'Institut montrent des taux de contamination près de 25 fois supérieurs aux normes canadiennes. J'ai tenté d'obtenir la réaction des auteurs des études critiquées, mais l'avocat qui mène le recours collectif des citoyens de Shannon a préféré qu'ils réservent leurs explications.
Et les gens de Shannon, qu'est-ce qu'ils pensent de cette étude-là?
Eh bien, ils sont pas étonnés. Ces analyses leur ont été présentées au moment de leur publication, il y a 2 semaines, mais ça ne les a pas décontenancés. On peut entendre ce qu'avait à en dire Jean Bernier du regroupement des citoyens de Shannon.
C'est sûr, on se le dit de suite. On sait que tous vos rapports vont être négatifs. Vous allez planter nos experts, parce que vos experts sont meilleurs que nos experts. Ça, c'est une certitude, parce que c'est l'argent des taxes qui paye ces études-là. Fait que pour nous, ça a été rien de nouveau. On leur a dit, on connaît toutes vos conclusions avant de vous écouter. Fait que c'est sûr que tout ce qu'ils vont faire comme étude jusqu'à la fin de ce dossier-là, tout va être négatif. Ça, j'en ai la certitude.
Mais, M. Bernier, ce sont quand même des analyses sérieuses qui montrent des failles importantes dans les études qui ont été menées à Shannon et sur lesquelles vous basez pour dire qu'il y a eu un vrai problème et que plusieurs cancers sont liés au trichloroéthylène dans l'eau de Shannon. Ça vous ébranle pas, ça, de lire ça quand même?
Oui, ben, dans le sens que c'est un organisme provincial qui devrait être là pour protéger les citoyens du Québec. Oui, ça nous a ébranlé parce que eux, ça va bien que ces rapports-là vont s'en aller directement dans les mains de la Défense nationale, dans leurs avocats. Fait que ce côté-là, ça a été ébranlant et ça l'est encore d'ailleurs. Mais par contre, on s'en attendait. Pourquoi? Ben, on peut s'imaginer, là, on a des études ici, j'en ai une devant moi, là, qui est de la santé publique puis qui date de 1988 d'un monsieur Daniel Bolduc qui dit déjà en 88, il y a des collines de danger, puis les pires sites sont dans le coin de SNC-Lavalin, puis du centre de recherche. Et puis c'est adressé, ça a été fait pour la santé publique, mais il ne s'est jamais rien produit. S'il y a eu des manques dans nos études, parce que nous, on n'a pas l'argent que le gouvernement a, ou que santé publique a, bien regardez, depuis le début, ce qu'on demande, santé publique, faites donc une étude épidémiologique, décrivez à la lettre les citoyens de Shannon, et là, on va en avoir le cœur net. Mais faites pas une analyse de la littérature pour dire il s'est passé quoi là, dans un autre petit village. Décrivez la population de Shannon. Venez ici, là, puis faites-le, une vraie étude scientifique.
Jean Bernier, donc, du regroupement des citoyens de Shannon, qui réclame, on vient de l'entendre, une enquête épidémiologique pour savoir si, oui ou non, le TCE en question est lié à des maladies, donc, à Shannon, précisément. Et cette enquête, la santé publique refuse toujours de l'amener, Gaëlle. Hein?
Une position qu'elle a d'ailleurs réitérée récemment, parce que, selon elle, la population de Shannon est trop petite pour tirer des conclusions qui soient valides d'un point de vue scientifique, et aussi parce que la contamination est très difficile à évaluer en rétrospective. Hein? Comment savoir à quelle quantité de trichloroéthylène les habitants ont été exposés dans le passé? Pourtant, Pourtant, plusieurs enquêtes ont conclu que les cancers étaient plus nombreux à Shannon qu'ailleurs. Dans l'une d'elles, on concluait que dans une cinquantaine de résidences de la zone la plus contaminée de la municipalité, les cancers étaient de 3 à 4 fois plus fréquents qu'à l'extérieur de cette zone-là. Mais ces conclusions-là ont été tirées grâce à une méthodologie discutable, nous explique le docteur Patrick Levallois, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec.
Pour nous, on a fait des commentaires à ce sujet-là. Il ne s'agit pas d'une étude épidémiologique, là. Il s'agit vraiment d'un exercice pour essayer de ramasser des données parcellaires chez des volontaires, etc., etc. On a repris tous les éléments et malheureusement, notre conclusion, c'est qu'on ne peut rien tirer de ce qui a été présenté dans ce rapport-là. Un des éléments importants, c'est que lorsque vous faites une étude épidémiologique, vous déterminez au départ la population concernée et ensuite vous essayez d'avoir de l'information sur toute la population que vous voulez évaluer. Si vous commencez à vous promener et puis aller demander ceux qui sont intéressés, venez rapporter vos problèmes, eh bien, vous risquez d'avoir une image biaisée de la situation. Et c'est un peu les discussions qu'il y a à l'heure actuelle sur le recensement, c'est un peu la même chose. Là, c'est que si, à partir du moment où vous rendez quelque chose optionnel, que les volontaires se présentent, etc., il y a des chances que vous ayez une image un peu biaisée ou peu réaliste de la situation. L'autre élément, c'est que il faut avoir une population qui est bien déterminée, et cette population-là, elle est en mouvement. Il y a des gens qui ont résidé là, il y avait des gens qui n'habitent plus là, d'autres qui y résident maintenant, mais ils n'avaient peut-être pas resté suffisamment longtemps. Enfin, donc, pour nous, il ne s'agit pas d'une étude épidémiologique, mais c'est des faits rapportés qui méritent d'être regardés peut-être, mais c'est pas là-dessus qu'on va tirer des conclusions.
Le docteur Patrick Levallois. Alors Gaël, si la santé publique dit qu'une enquête épidémiologique à Shannon ne donnerait pas de résultats clairs, est-ce que c'est un problème commun qu'on retrouve souvent en toxicologie, ça?
Ben, c'est la question que j'ai posée à Jean-François Narbonne, toxicologue à l'Université de Bordeaux, bien loin de Shannon, donc. C'est un expert des effets des contaminants sur la santé humaine. Voici sa réponse.
De rechercher ce qu'on appelle un facteur de causalité, de faire le lien entre un effet santé et une cause, est extrêmement difficile pour ce qui concerne la population générale, donc en dehors des expositions professionnelles, qui là sont d'abord de fortes expositions et dans un milieu contrôlé. Il y a très peu de toxiques pour lesquels il y a un effet qui soit spécifique de ce toxique, je dirais, à faible dose sur de longues périodes.
Est-ce qu'il y a des cas qui ont fait école en toxicologie, par exemple, où on a réussi à regarder une petite population et à dire qu'elle était affectée par des maladies à cause d'un produit en particulier?
Si l'effet est très important, je pense par exemple au tabac et à la cigarette, hein, où l'effet est multiplié par 10 ou par 30, donc effectivement là, des petites populations, si vous prenez 100 fumeurs et 100 non-fumeurs, vous pouvez avoir une différence sur une faible population. Si vous avez des effets beaucoup plus subtils, je pense par exemple à l'effet des dioxines sur les incinérateurs non filtrés de l'époque, il a fallu qu'en France, par exemple, on ait monté à 2,5 millions de personnes pour arriver à montrer une augmentation de 10% de certains cancers. Donc là, c'est un 10%, c'est un effet très faible. Ça correspond par exemple à fumer 2 cigarettes par jour. Donc là, sur 100 personnes, vous ne voyez pas l'effet. Il faut le voir sur des cohortes donc, très importantes, parce que l'épidémiologie, je dirais, clinique, qui se base sur des observations de maladies ou de signes cliniques, nécessite, surtout pour des effets dits faibles, hein, c'est-à-dire de quelques pourcents d'augmentation, qui évidemment a un sens en santé publique, mais qui est, je dirais, statistique. Difficile à démontrer au niveau de l'épidémiologie classique. D'où l'idée de mieux évaluer les expositions. Donc aujourd'hui, on a des moyens modernes de dépasser, je dirais, ce problème de l'épidémiologie classique en ayant des marqueurs d'exposition. Aller rechercher les produits dans le sang humain ou dans les graisses ou dans l'urine quand ces produits sont métabolisés.
C'est donc le toxicologue Jean-François Narbonne. Gaël, M. Narbonne parle de marqueurs d'exposition, des outils bien utiles aujourd'hui pour les
toxicologue, il faut le dire.
Il existe ces marqueurs d'exposition dont il parlait, des marqueurs aussi de génotoxicité qui permettent de voir sur l'ADN l'ampleur des dégâts commis par une ou des substances. Et dans le cas du TCE à Shannon, des chercheurs engagés par les avocats qui mènent le recours collectif ont établi ce qu'on pourrait appeler une signature moléculaire du trichloroéthylène dans des cellules cancéreuses prélevées sur des habitants. Cette technique a mené à une étude qui, elle aussi, établit des liens entre TCE et cancer. Mais l'Institut national de santé publique, dans son analyse récente, parle d'une technique qui peut sembler intéressante et novatrice, mais qui n'a pas été validée selon une méthodologie reconnue en science. Mais il faut dire qu'encore aujourd'hui, dire qu'un cancer X est causé par un produit précis en regardant des mutations présentes dans une tumeur, c'est vraiment pas évident. C'est ce que nous dit Jean-François Narbonne.
C'est très difficile, hein, c'est très difficile à établir encore une fois. Bon, l'amiante, par exemple, là, on a un mésothélium qui est très spécifique, c'est-à-dire qu'on a un cancer qui est très spécifique de l'amiante. Dans le cas, par exemple, des lymphomes non-Hodgkiniens, la plupart du temps, on les trouve avec des produits chlorés. Donc, on peut rapprocher certains types de maladies, par exemple aussi, certains signes neurologiques peuvent être liés à certains solvants. Donc, on a des atteintes rénales peuvent être liées à des métaux lourds, par exemple, ou cuivre, ou au mercure, enfin on peut avoir un certain nombre d'indicateurs comme ça qui sont plus ou moins spécifiques. Maintenant, au niveau des mutations, parce que souvent pour avoir certains types de cancer, il faut certaines mutations. Maintenant, est-ce que cette mutation est spécifique d'un composé chimique? Ça, la question est beaucoup plus difficile à répondre.
Jean-François Narbonne, toxicologue donc à l'Université de Bordeaux. Alors Gaël, pour revenir au cas de Shannon, le recours juridique dont on a parlé, ça va être entendu cet hiver, je crois.
Oui, c'est prévu pour le tout début de l'année prochaine.
Merci beaucoup Gaël.
Je vous en prie.
Lily Boisvert, journaliste au site internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radiotradeunioncanada.ca/lumière et également en diffusion en direct par satellite Sirius et en flux MP3. Vous pouvez aussi emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site internet. Les Années-Lumière débordent de l'espace-temps.
Tous les deux ans, des spécialistes de l'exploration spatiale se réunissent à l'invitation de l'American Astronautical Society, de la Japanese Rocket Society et de la Société chinoise d'astronautique. Et cette année, curieusement, ces conférences techniques se tenaient à Montréal. Sophie-André Blondin, vous êtes bien sûr allée y faire un tour.
Oui, parce qu'on parle souvent des programmes spatiaux japonais, chinois, mais on a rarement l'occasion de les entendre parler directement, ou en tout cas leur porte-parole. Et cette année, en plus, la conférence spatiale des pays du bassin Pacifique, parce qu'elle s'intitule comme ça, avait invité un consultant du programme spatial indien. Je suis donc allée voir ce que ces agences mettent de l'avant comme priorité, ce qu'ils ont comme intérêts principaux pour les prochaines années.
Alors, vous avez dit, hein, le Japon, la Chine, l'Inde, là, on parle quand même de programmes spatiaux importants. Sont des joueurs affirmés, confirmés dans le fameux club des agences spatiales.
Oui, puis pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à lever les yeux vers la Lune avec des yeux bioniques. En tout cas, autour de notre satellite, ces trois agences ont acquis des galons au cours des dernières années. Mais la Lune, vous savez, c'est pas tout dans la vie d'une agence spatiale. Le président américain est d'ailleurs en train d'essayer d'en convaincre son congrès. Et ces agences spatiales ont d'autres missions à leur tableau d'honneur. Ils ont d'autres projets dans le système solaire.
Alors, les Japonais, qu'est-ce qu'ils voient, eux?
Le directeur général de l'Institut des sciences spatiales de JAXA, l'agence spatiale japonaise, Junjiro Oneda, est venu parler de Akatsuki, une sonde partie en mai vers l'orbite de Vénus pour étudier le climat de la planète. Il a rappelé le succès du déploiement de la voile solaire d'Ikaro, l'installation du module japonais Kibo sur la Station spatiale internationale. Mais ce dont tout le monde avait envie de parler, c'est de Hayabusa, la sonde qui est retombée en Australie plus tôt cet été après un périple de 7 ans pour aller récolter des échantillons de l'astéroïde Itokawa.
Hayabusa has demonstrated a very advanced technology of asteroid sample return.
Hayabusa a démontré une technologie fort avancée pour la récupération d'échantillons d'astéroïdes, mais elle a dû faire face à d'énormes difficultés pendant son voyage et elle a surmonté ces difficultés.
So, Hayabusa get large amount of sympathy from the public.
Hayabusa a donc gagné beaucoup de sympathie dans le public. Le public adore Hayabusa.
But the final purpose of Hayabusa is to sample.
Mais le but de la mission, c'est de récupérer un véritable échantillon de l'astéroïde, et ce but n'est pas encore complètement atteint.
We know that no large sample is captured by the sampler.
Nous ne savons pas si nous avons récupéré un échantillon de l'astéroïde. Nous savons qu'il n'y avait pas d'échantillon d'importance dans le contenant, mais on pourrait trouver des fragments minimes.
Are you hopeful?
Yeah, still, we are hopeful.
Junjiro Oneda, donc, qui est président de la Japanese Rocket Society. Maintenant, Sophie André, du côté des Chinois.
Ben, les informations factuelles sont plus difficiles à obtenir, mais leur feuille de route est impressionnante. 6 taïkonautes lancés dans l'espace, des projets d'atterrisseurs lunaires, de bases lunaires, d'échantillons lunaires en 2017 grâce à un véhicule exploratoire, projet de sonde martienne et aussi une volonté qui est non dissimulée de joindre les partenaires de la Station spatiale internationale. Oui, oui, les Chinois frappent à la porte de la Station spatiale. Pour des données un peu plus précises sur les visées chinoises, j'ai tenté d'interviewer les représentants de l'agence spatiale chinoise sur place qui m'ont candidement avoué que, du fait de leur position plus académique que politique, elles n'avaient pas accès aux informations récentes au sujet de leur agence spatiale.
Ça raccourcit une interview, cela oui. dit. Et l'ISRO, l'agence spatiale indienne maintenant, la vision.
Ben, l'Inde a désormais des yeux et des instruments au-delà d'orbite terrestre. Le contact avec la première sonde lunaire Chandrayaan a été perdu l'été dernier, on s'en souvient, mais il y a une deuxième sonde qui est prévue pour 2013 avec des impacteurs et des robots lunaires. L'ISRO a une vision pratico-pratique de l'utilisation civile de l'espace. Elle s'est spécialisée ces dernières années dans les lanceurs pour envoyer des satellites en orbite, des satellites de partout dans le monde. Mais ce qui caractérise la vision indienne de l'espace, et ça depuis presque 40 ans, c'est une volonté d'en tirer des applications terre-à-terre, des applications qui sont basées sur les besoins pratiques du pays. Arun Misra est professeur à l'Université McGill. Il était co-organisateur de la conférence ISCOPS, la conférence spatiale des pays du bassin Pacifique. Il résume cette particularité du programme spatial indien.
When they started the space program, their goal was to find ways to help space make a difference in the life of Indian people. Specifically,
le programme spatial avait pour but de trouver des façons pour que l'espace change la vie du peuple indien, surtout ceux qui vivent dans des villages éloignés et pauvres, parce que les infrastructures d'éducation et de communication n'étaient pas bien développées. Avec les satellites, les villages isolés ont pu avoir accès aux communications, même sur les îles éloignées. Aussi, les systèmes fournissent des données météorologiques sur les cyclones pour évacuer les gens en cas de besoin.
Another very interesting aspect is that they have a satellite called EduSat for education purposes, so that
un autre aspect intéressant, c'est que des satellites mettent en lien des professeurs des centres urbains avec des étudiants en régions rurales.
And another aspect, which is a very interesting aspect, is telemedicine.
La télémédecine aussi, qui relie les hôpitaux centraux et les petits hôpitaux ruraux pour les traitements et même les chirurgies.
Rural hospitals, in terms of treatment, also in terms of surgery. And also what they have
l'Inde done, fournit même ce service de télémédecine à certains pays africains à titre gracieux.
In Africa as well, you know, as a voluntary service. So satellites can make big differences.
Alors les satellites peuvent vraiment changer la vie des gens les plus ordinaires, surtout les villageois pauvres.
And that is one great thing that has happened in India.
Arun Misra, donc, d'Université McGill à Montréal, qui était le co-organisateur de la conférence ISCOPS des pays du bassin Pacifique.
Vous savez, Yannick, les satellites indiens ont même un impact direct sur la vie des pêcheurs là-bas. Ils disposent non seulement des données météorologiques avant de partir en mer, mais ils ont aussi accès aux données de recherche qui repèrent les bancs de poissons depuis l'espace.
Les Japonais, donc, avec des échantillons d'astéroïdes, les Chinois vers la surface de la Lune, les Indiens avec leur programme, donc, très concret, on vient de le voir, tous ces pays, toutes ces agences spatiales, donc, ont leur spécialité, leur niche,
Mais il faut bien qu'elles collaborent un petit peu entre elles, non?
Oui, et de plus en plus, parce qu'avec l'importance des sommes requises pour explorer le système solaire, les agences nationales sont finalement condamnées à coopérer. Même la NASA, qui a toujours fait figure de meneur et qui a souvent fait cavalier seul. La NASA, dont le budget, rappelons-le, totalise une fois et demie les budgets combinés de l'Agence spatiale européenne, des agences civiles de la Russie, de la Chine, du Japon et de l'Inde. Neil Newman, du NASA Office of International and Interagency Relations, explique ce contexte de collaboration internationale. Il est incontournable pour la NASA, mais pas complètement nouveau.
La coopération internationale, c'est dans nos traditions depuis nos tout débuts en 1958. Nous avons l'ambition d'étendre la présence humaine au-delà de l'orbite terrestre, au-delà de la station spatiale, vers la Lune, vers Mars peut-être. Et comme ces idées sont en voie de se concrétiser, nous comprenons qu'il faut travailler encore plus intensément, d'une manière internationale, d'une manière globale et coordonnée.
En 2006, nous avons lancé une initiative, la Stratégie globale d'exploration, un dialogue entre 14 agences spatiales, dont l'Inde, la Chine, le Japon, le Canada et bien d'autres. Nous avons des objectifs communs quant à l'exploration spatiale, quels que soient les plans spécifiques d'une agence spatiale en particulier. Par exemple, pour nous, à la NASA, il y a un débat en ce moment aux États-Unis quant à l'avenir du programme de mission spatiale habitée. Mais le dialogue au sujet de notre stratégie globale d'exploration dépasse les préoccupations individuelles des agences. Tant qu'il y a un intérêt collectif et global pour propulser des humains dans le système solaire, il y aura un dialogue international.
Neil Newman, donc responsable des relations internationales à la NASA, et le Canada, là-dedans, Sophie André, notre agence spatiale à nous, quelle est sa place dans toutes ces idées, dans toutes ces discussions?
Ben, j'ai posé la question à Gilles Leclerc, il dirige la gestion de la technologie à l'Agence spatiale du Canada.
Parmi les plans spatiaux, ceux qu'on connaît des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, il y a plusieurs éléments de programme qui intéressent le Canada. On sait que la Chine est en train de devenir une des plus importantes puissances spatiales au monde, à l'image de son économie. On planifie une plateforme orbitale et l'exploration de la Lune et de Mars. Du côté de l'Inde, on a les mêmes ambitions. Le Canada étudie présentement une collaboration via la Russie qui permettrait de poser un équipement canadien sur un rover, sur un véhicule lunaire. Le Japon, maintenant, revoit ses plans spatiaux, un peu à l'image de la plupart des agences spatiales, incluant le Canada, et on regarde ensemble des possibilités de coopération. Nos partenaires principaux demeurent la NASA et l'Agence spatiale européenne. Maintenant, il y a un mécanisme de coordination qui s'appelle le groupe de travail sur l'exploration spatiale. C'est un groupe de travail international qui regroupe 14 agences spatiales qui ont, pour la première fois, donc ça c'est vraiment une première dans l'histoire de l'exploration, qui ont développé une vision et des thèmes pour l'exploration humaine et robotique du système solaire. Cette vision-là a été articulée dans un document qui s'appelle la Stratégie globale pour l'exploration. Le Canada a joué un rôle de premier plan.
Est-ce qu'on peut imaginer que du côté du Canada, on va miser sur la robotique?
Absolument. Donc, parmi les technologies sur lesquelles on va miser, il y a évidemment la robotique, les bras manipulateurs, des rovers, donc des astromobiles dans un français correct, et des véhicules électriques autonomes, des technologies liées à des foreuses, un héritage du secteur minier. Ça, c'est l'aspect plus robotique. Il faut aussi penser à la station spatiale pour laquelle il faut qu'on fasse une utilisation scientifique et technologique. Là aussi, on va apprendre beaucoup sur les vols de longue durée. On entend développer des systèmes pour les équipes médicales. Il faut continuer à développer cette expertise-là à travers les opérations sur la station spatiale.
C'était Gilles Leclerc de l'Agence spatiale canadienne.
Et notez, Yannick, la participation canadienne, comme celle d'ailleurs de toutes les agences spatiales autres que la NASA, demeure directement liée aux décisions, des décisions qui restent à prendre aux États-Unis au sujet de l'avenir du programme des vols spatiaux habités. Parce qu'il y a peut-être maintenant ce groupe de 14 agences qui veulent écrire ensemble la suite de l'histoire de l'exploration humaine de notre système solaire, mais tous les joueurs n'ont pas le même poids. Je rappelle cette différence entre le budget de la NASA et des autres agences.
Merci beaucoup, Sophie André.
Merci.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, un autre épisode de notre série d'été sur la biodiversité.
La biodiversité agricole, la génétique domestique, là, que ce soit végétaux ou animaux, on ne peut pas penser que simplement à cause que ce n'est pas sauvage, que ce n'est pas menacé. C'est vraiment même plus à risque parce que la nature est grande. Elle n'a pas les contraintes de l'économie marchande. Vous savez? Tandis que nous, on est assujettis avec ces lois-là.
Ding dong, c'est l'heure du facteur. Et voici la question qu'il a laissée cette semaine dans notre boîte vocale.
Bonjour. On parle beaucoup ces temps-ci du fameux recensement et du formulaire long qui va devenir volontaire. Ça semble soulever des inquiétudes au sujet de la valeur des données qui seront recueillies. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'un questionnaire volontaire serait moins valable qu'un questionnaire obligatoire? Merci beaucoup. Au revoir.
Et oui, hein, la controverse autour du questionnaire long de Statistique Canada s'est poursuivie cette semaine. Alors, effectivement, pourquoi un questionnaire volontaire serait-il moins valable qu'un questionnaire obligatoire? Gaëlle Lucia Berdou a posé la question à Christian Léger, professeur au département de mathématiques et de statistiques de l'Université de Montréal.
Le problème principal avec une enquête qui serait volontaire, c'est le fait qu'il y aura un certain nombre de personnes qui ne répondront pas et qu'on ne sait pas trop qui ne répondra pas et surtout quelles auraient été les réponses de ces gens-là s'ils avaient répondu.
Mais le gouvernement conservateur qui a pris cette décision nous dit ça ne sera plus obligatoire, mais il y aura plus de gens qui vraisemblablement répondront puisque ce recensement volontaire sera envoyé à plus de gens.
Oui, mais là, le biais qu'on parle, c'est de savoir qui va répondre ou pas. Donc, par exemple, supposons que vous recevez un téléphone sur l'heure du souper et qu'on vous dit qu'on aimerait vous poser quelques questions pour un sondage concernant un certain sport. Si vous êtes intéressé par le sport, vous allez peut-être vouloir répondre. Si vous êtes plus ou moins intéressé et que c'est l'heure du souper, vous voudrez probablement pas répondre. Et donc, à ce moment-là, les gens qui vont répondre ne seront pas nécessairement représentatifs de toute la population. Donc, pour régler ce genre de problème-là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va calibrer les répondants. Ce qu'on pourrait faire pour corriger le fait qu'il y ait, par exemple, moins de femmes qui vont répondre à notre sondage sur le sport, ça va être d'augmenter le poids des femmes qui ont répondu.
Oui, et les sondeurs font ça régulièrement. Quand ils font des sondages, par exemple, politiques, ils savent que certaines personnes sont moins enclines à répondre à leurs questions et ils corrigent ça. Donc, ça se fait, ces corrections-là?
Oui. Mais pour faire ces corrections-là, il faut donc savoir dans la population au complet c'est quoi le pourcentage de femmes. Donc, ces informations-là, on peut les avoir avec le recensement court. Par contre, si je change mon questionnaire puis que maintenant je m'intéresse aux arts de la scène, ben là, c'est peut-être plus le sexe qui est important. C'est peut-être les gens qui ont des plus grands revenus qui vont vouloir répondre à mon sondage. Donc, pour ça, il va falloir que je repondère chacun de mes répondants pour tenir compte de la non-réponse. Pour ça, ça va me prendre de l'information sur le revenu. Et ça, j'ai justement ça dans le questionnaire long.
Monsieur Léger, qu'est-ce que ce passage à un recensement volontaire peut vouloir dire aussi pour les études qui sont, si on veut, rétrospectives, donc qui vont comparer des données plus récentes à des données plus vieilles?
Ben, c'est sûr que ça va grandement compliquer les choses. Dans bien des cas, ce qui nous intéresse, c'est justement les changements. Ce qui nous intéresse, c'est pas nécessairement de savoir exactement c'est quoi le pourcentage de gens qui sont au chômage, mais plutôt que de savoir que par rapport au mois dernier, ça a augmenté ou ça a diminué. Et donc, pour ça, il faut avoir une méthodologie comparable d'une fois à l'autre. Ou si on fait des changements dans la méthodologie, il faut s'assurer, à l'aide d'une enquête, de voir jusqu'à quel point est-ce que les changements dans la méthodologie vont amener un biais ou non.
À votre avis, est-ce que le battage dont on est témoin depuis quelques semaines autour de la question de ce recensement a déjà eu un effet sur la façon dont les gens vont répondre?
Ben, c'est sûr que si le message qu'on envoie à la population, c'est, ben, vous savez, là, vous n'êtes pas vraiment obligé de répondre à ces sondages-là, ben là, on risque de créer des biais très, très importants, des biais qu'on ne sera pas en mesure de corriger parce que, justement, une des utilités du formulaire long, c'est d'avoir des informations précises qui nous permettent de corriger les erreurs telles que je les mentionnais tantôt, quant au salaire, quant au sexe, etc. Et donc, là, on risque d'avoir de sérieux problèmes si les gens se mettent à refuser de répondre.
Merci beaucoup, M. Léger, pour ces explications.
Bienvenue.
Gaëlle Lucia Berdou s'entretient avec Christian Léger, qui est professeur au département de mathématiques et de statistiques de l'Université de Montréal. Et si vous avez, vous aussi, des questions de sciences, vous pouvez nous les poser par téléphone. Dans la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, sans frais, vous faites le 1-800-752-9050. Et puis, il y a toujours le courrier électronique, le courriel, notre adresse, lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière avec Marie-Dominique Beaulieu cette semaine. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Médecin au CHUM, Centre hospitalier de l'Université de Montréal, pour parler d'un sujet assez étonnant, celui de la douleur chez les nouveau-nés, chez les nourrissons, les prématurés même, ou même les enfants à terme. C'est incroyable parce que pendant longtemps, on a pensé que les nouveau-nés ne ressentaient pas la douleur. On faisait même des interventions, bon, des petites interventions chirurgicales sans analgésie. Marie-Dominique, les choses commencent à changer, heureusement.
Heureusement, oui. Effectivement.
Alors, les nouveau-nés, est-ce que ça ressent la douleur d'abord?
Alors, voilà, on a longtemps cru. On sait que les enfants naissent avec un système nerveux qui est immature à bien des égards, que ce soit au niveau de la vision, la coordination. Et donc, on a longtemps cru que les réseaux nerveux qui transmettaient la douleur étaient aussi immatures et incapables de bien fonctionner. Surtout chez les prématurés. Et puis, bien sûr, l'absence d'alternative verbale à l'expression de la douleur chez les très, très, très petits a un petit peu entretenu ce mythe. Mais vous me voyez venir, on peut dire que c'est un mythe qui a été déboulonné récemment. Mais c'est au début des années 80 qu'il commence à avoir des données scientifiques qui montre des réactions physiologiques qu'on sait associées au stress, comme l'accélération du rythme cardiaque, de la respiration, hein, la sécrétion d'adrénaline ou de cortisol, suite à l'exposition à des stimuli qu'on savait douloureux, comme une piqûre chez des nouveau-nés. Ensuite, le développement de l'imagerie du système nerveux central a permis d'observer des perturbations là, au niveau de l'imagerie dans certaines régions du cerveau suite à l'exposition encore à des stimuli douloureux. Et en fait, c'est un petit peu plus tard dans cette même période qu'on a découvert aussi que le système nerveux sensitif du fœtus est pleinement fonctionnel à l'intérieur du deuxième trimestre de gestation.
Donc, très tôt, bien avant la naissance.
Donc, bien avant la naissance, autour du 4-5e mois. Donc, le système douloureux, le système nerveux qui transmet la douleur est donc très fonctionnel.
Donc, ça, c'est il y a moins d'une trentaine d'années.
Oui, une vingtaine d'années. Mais on peut dire que c'est récemment. Ce n'est qu'en 2005 qu'une étude française réalisée dans des unités néonatales a vraiment sonné l'alarme. Et je pense qu'on pourrait dire que dans la communauté là, des unités néonatales a été un électrochoc.
Ah oui?
On a suivi 430 nouveau-nés hospitalisés pendant 14 jours dans des unités néonatales et on a décompté près de, écoutez ça, 70 000 procédures. On pense, on compte tout, on compte les piqûres, la succion, il y a beaucoup de choses chez les bébés, les nourrissons très malades. Donc, dont 70 % étaient carrément douloureuses et 30 % plus stressantes parce qu'on immobilise le bébé ou bon. Et bon, pour une moyenne de 115 procédures par enfant dans le 14 jours. Et si on excluait donc les techniques, les enfants qui avaient, comme vous le dites, des interventions chirurgicales qui étaient déjà sous analgésie profonde ou des enfants sous respirateur, seulement 21 %, de ces gestes avait été précédé d'un traitement analgésique pour prévenir la douleur.
Ce qu'on disait au début, donc on pensait qu'il n'y avait pas de douleur chez le nouveau-né,
voilà.
Pas de perception de la douleur.
Exact.
Oui. Mm-hmm.
Donc, il n'y a aucun doute que les nouveau-nés et les grands prématurés peuvent ressentir la douleur.
Et qu'est-ce que ça fait justement, bon, à part le fait de ressentir la douleur, est-ce qu'il y a des conséquences à ce fait-là, cette perception de la douleur?
Oui, alors, donc, ce qui est intéressant, on commence à regarder ça et on voit en fait que l'expérience de la douleur a des conséquences à court ou moyen terme chez les enfants. Par exemple, encore plusieurs études, là, il faut dire que c'est un sujet moins bien défriché au niveau de la connaissance scientifique. Par exemple, on a suivi des enfants de mères diabétiques chez qui on fait souvent là, des prises de sang sur le talon pendant à plusieurs heures là, dans les premiers jours de vie pour voir si elles ne font pas d'hypoglycémie. Et ensuite, on les a suivis et on a remarqué que même plus tard, plus âgés, enfants, ils exprimaient plus de douleur quand ils avaient des prises de sang.
Mm-hmm.
On a aussi suivi des enfants circoncis sans aucune analgésie.
Oui, ça aussi. Hein.
Voilà. Mm-hmm. Pour remarquer que plusieurs mois plus tard, à 2, 4, 6 mois, ils avaient l'air de ressentir plus de douleur lors de la vaccination. Donc, un genre
donc, ça
de
laisse une
stimulation
trace. C'est ça, oui.
du système mm-hmm. de la douleur. Mm-hmm. Donc, très tôt, qui fait qu'on devient hyper réactive. Et d'autres études intéressantes suggèrent que le contrôle de la douleur peut améliorer l'évolution, notamment en chirurgie. Donc, des enfants très jeunes, donc des nouveau-nés opérés, s'ils sont exposés à des doses vraiment optimales d'analgésiques, peuvent avoir une récupération plus rapide.
Mm-hmm. Ce qui n'est pas surprenant,
non,
finalement. C'est ça, ouais.
Donc, il y a vraiment des conséquences à une douleur mal soulagée chez le bébé.
La douleur, c'est quelque chose qui est rentré en médecine il y a quand même finalement pas très longtemps. Hein.
Voilà.
Dans le temps, les médecins n'avaient pas grand cours sur la douleur dans leurs cours.
C'est vrai.
Là, maintenant, on parle de la douleur chez les nourrissons. Un des problèmes, c'est l'évaluation de la douleur. Comment on fait pour un nouveau-né?
C'est un grand défi. En fait, les différentes échelles de notation se basent sur en fait, des signes indirects de la douleur. Le rythme cardiaque et le rythme respiratoire.
Peuvent augmenter, j'imagine.
Les pleurs,
oui.
L'expression faciale de l'inconfort de l'enfant et les mouvements du corps.
Mm-hmm.
Donc, il y a différentes échelles qui
semblent assez disons, naturel.
Hein.
Ça
oui.
prend pas un doctorat en médecine pour voir si l'enfant pleure, il a peut-être mal.
Non, effectivement.
Mais enfin, on a développé des échelles pour évaluer ça. Hein.
Oui,
ça,
effectivement.
C'est intéressant. Et les traitements?
Bon, alors il y a des traitements, bien sûr, l'analgésie. Je pense qu'on arrive à... On voit aussi qu'on avait peur de donner des
il y a ça aussi. Hein,
oui, aux très jeunes enfants. Donc, je ne vais pas rentrer dans les traitements sophistiqués de la douleur, mais des petites choses simples. Par exemple, on a découvert que des solutions sucrées, une petite cuillerée à thé d'une solution de sucrose bien sucrée, là, réduit la douleur associée même à la vaccination jusque vers 3 mois.
Oui, c'est bien.
Il y a des endroits où on en donne systématiquement. Mais des choses très simples aussi, donc la sucette, qu'on aime bien utiliser, l'allaitement au sein, ce qu'on appelle de façon très sophistiquée la stimulation sensorielle, mais parler beaucoup à l'enfant pendant qu'on fait une technique, chanter, le rassurer, c'est
il pense à autre chose.
Il pense à autre chose.
Oui, exactement, oui.
Emmailloter l'enfant, l'anesthésie locale, de plus en plus, on utilise des crèmes.
On fait des petites crèmes, oui.
Exprès pour diminuer. Et puis, notre bonne acétaminophène est aussi efficace.
Est aussi efficace. Conséquence de tout ça, heureusement, on le voit, ça, la science va jusqu'aux autorités médicales.
Oui, alors en 2006, en fait, je pense suite à cette étude française dont on a parlé, en 2006, les associations canadiennes et américaines de pédiatrie ont vraiment fait une recommandation à l'effet que toutes les unités néonatales doivent avoir une politique de prévention et de monitorage et de traitement de la douleur dans leur milieu.
C'est une bonne idée.
Oui. Tout à fait.
Il était temps.
Il était temps, bien oui. Et en fait, où on va conseiller, donc former le personnel, adapter une des échelles d'évaluation et penser à l'appliquer régulièrement, comme on prend les signes vitaux, on prend la tension artérielle 3-4 fois par jour d'un enfant dans une unité néonatale, mais aussi de monitorer et d'utiliser cette échelle de dépistage de la douleur et aussi d'essayer de coordonner les soins pour pas faire trop de gestes potentiellement douloureux.
Exactement.
Et de les réduire pour, en fait, diminuer la fréquence de l'exposition à des stimuli potentiellement douloureux.
Et c'est ainsi que nos petits nouveaux-nés vont mieux aller?
Eh oui, tout
à fait. Merci beaucoup, Marie-Dominique.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Années Lumière. Quelques secondes pour vous dire de ne pas manquer ce soir à la télévision de Radio-Canada à 18h30, Découverte. On vous présente un reportage sur Charlie Russell, l'homme qui élevait, écoutez bien, des grizzlies. Tout un programme. Mais en attendant, vous restez à la radio, c'est plus sûr. Après les nouvelles, la deuxième heure des Années Lumière avec notamment la série sur la biodiversité. Les Années Lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours au microphone pour vous présenter cette deuxième partie du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, cette deuxième partie, elle commence avec un nouvel épisode de notre série d'été sur la biodiversité. Cette semaine, une biodiversité, elle aussi, menacée, même si l'on ne pense pas souvent à elle. On y revient dans un instant. En rediffusion ensuite, une visite de l'exposition Copyright humain au Musée de la civilisation de Québec. C'est Sophie André-Blondin qui nous sert de guide. Et pour terminer, c'est elle aussi qui nous sert de lectrice cette fois. Elle a lu pour nous une histoire naturelle d'essence et interviewé son auteur, Claude Gudin. Son livre est sorti aux éditions du Seuil. Mais pour commencer, notre série d'été sur la biodiversité. Milliards d'espèces, une planète. C'est l'année internationale de la biodiversité, la diversité de la vie, la diversité des espèces, les animaux, les végétaux, les micro-organismes. La diversité de la vie diminue à un rythme accéléré sur et sous la terre, dans le ciel, sur et sous la surface de l'eau, d'où cette année internationale. Et c'est pour la marquer cette année que nous diffusons une série de reportages sur ce sujet pendant tout l'été. Cette semaine, on s'arrête à un aspect de la question auquel on ne pense pas spontanément quand on parle de perte de la biodiversité.
La biodiversité agricole, la génétique domestique, là, que ce soit végétaux ou animaux, on ne peut pas penser que simplement à cause que ce n'est pas sauvage, que ce n'est pas menacé. C'est vraiment même plus à risque parce que la nature est grande. Elle n'a pas les contraintes de l'économie marchande. Savez? Tandis que nous, on est assujetti avec ces lois-là, les lois des marchés, puis tout. Puis tout d'un coup, la rentabilité s'installe, puis là, ça nous prend cette race-là qui domine. Après ça, il y a des lobbies, puis bon, c'est ça.
André Auclair est un éleveur de Saint-Paulin dans la région de Trois-Rivières, mais un éleveur pas comme les autres, un passionné surtout. Et sa passion, ce sont les races d'animaux domestiques menacées. Il est d'ailleurs le directeur général de la Fédération de producteurs des races patrimoniales du Québec. À l'échelle de la planète, dit la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, une race d'animaux de ferme disparaît tous les mois. Ici, les trois dernières races spécifiques au pays étaient menacées d'extinction, voire le sont encore. Ces races sont la vache canadienne, la poule chanteclaire et le cheval canadien. André Auclair les élève toutes les trois. J'ai fait le tour de ces précieux et très beaux troupeaux avec lui.
Je vous présente mon troupeau de chevaux canadiens. Il s'agit d'ici de 8 juments, ici, des juments d'élevage. Merveille, tu veux te faire présenter en premier? Bon, voilà, ça c'est merveille. Hein? Tu vas montrer comme je suis belle. Fait que... à me tasser pour montrer. C'est Jubilé, né au monde en 2000. Elle apporte le nom Jubilé. Je vous présente Harlem.
Tout noir.
Tout noir, oui, c'est ça. Voyez-vous quand on dit le cheval canadien? Petit mais robuste.
Oui. Il faut le décrire. Hein, c'est pas un gros cheval, quand même.
Il était petit, mais pour sa grosseur, il était très puissant. Voyez-vous la bonne qualité des membres de ces petits juments-là? Ben, là, je ne veux pas vanter mon troupeau, mais évidemment, ce sont des chevaux de qualité. Ça a été développé sur notre climat. Nos ancêtres ont contribué. Ils ont fait une sélection, comme on dit, du plus apte, du plus fort, puis du plus utile.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, justement, ces chevaux?
Le cheval canadien était un cheval. C'était la seule race qui était ici qui savait adapter. Quand on a emmené un cheval, on a emmené un cheval qui embarquait des bateaux, donc pas trop gros, mais en même temps, pour son volume, il fallait que ce soit dense puis solide. Puis polyvalent, il fallait que ce soit rapide pour faire les grandes distances en peu de temps, puis en même temps qu'il soit fort.
C'est un cheval de labour,
oui,
d'abord?
Un cheval de deux fins. Un cheval pour les travaux et pour le charouin. Les sourcelines en ont eu, puis ils disaient, Sa Majesté nous a envoyé une belle jument, tant pour la charrue que pour le charouin. Ça veut dire qu'elle avait déjà envoyé un type, vous savez, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de races de chevaux, on va envoyer un cheval qui est assez utile dans beaucoup de fonctions. Puis le cheval canadien, il a développé les qualités aussi. Il n'était pas comme ça quand on l'a reçu, vous savez. On a eu des chevaux de la Normandie puis de la Bretagne. Deux types de chevaux polyvalents. Alors, c'est le mélange de ces deux chevaux-là, puis qu'au début, c'est un mélange de chevaux, qu'au fil du temps, la sélection et les générations successives, après 25-30 générations, là, c'est pas long qu'une race est fixée. Là, c'est devenu le cheval canadien, qui est unique.
Donc, ça s'est développé, ça s'est multiplié, on a fixé la race, et c'est devenu le cheval universel au Canada.
Oui, oui, en fait, c'est ça. C'est le seul cheval qui était ici pendant 250 ans. Donc, cette race-là s'est bien fixée. La sélection s'est faite aux us et coutumes, aux travaux, puis au climat. Là, c'est devenu la race chevaline canadienne. Comprenez-vous?
En tout cas, ils sont affectueux parce qu'on est entouré par eux.
Vous avez vu, ils sont pas malins. Hein?
Non, ils sont vraiment fines. Elles veulent vraiment le même mort, puis même la chemise.
C'est que la race, voyez-vous, c'est un cheval qui a un dos robuste, la côte circulaire bien ronde. Il est compact. Il est quand même assez raffiné pour être agile. Pour pas qu'il soit lourd dans son déplacement. Puis il y a beaucoup d'amplitude malgré les petits. Dans ses mouvements, ses foulées sont longues, puis quand même assez relevées pour les bancs de neige. Fait que il y a un mouvement que ça développe un athlète assez complet.
Et aujourd'hui, là, si on fait la situation, donc, il y a ici votre troupeau à vous, votre petit troupeau. Vous avez quoi, 8 femelles?
Ici, il me reste 9 femelles. J'en ai une autre que je vais vous montrer tantôt, une vieille capucine. Bon, j'ai monté déjà 52 chevaux. Mais là, je me concentre sur le projet des poules champs de terre, parce que le cheval canadien va relativement mieux. Lui, il n'a pas eu le problème des quotas. Vous savez, le cheval, il n'y a pas de quota pour l'élever. Hein? Mm-hmm. Tandis que le bovin canadien puis la voilure champs de terre, c'est des animaux qui sont sous quota. C'est beaucoup plus difficile de partir avec une idée. Quand je me monte un troupeau de chevaux canadiens, ça, c'est pas dur. Mais me dire, ben là, je me monte des vaches canadiennes au benon de la poule champs de terre, ben là, il faut arriver avec toute la réglementation. Là, oh boy, ça, c'est une autre paire de manches. Là.
Mais pour le cheval, pour en rester au cheval, il y en a combien actuellement, à peu près?
On situe le troupeau autour de 3500, peut-être 5000 si on compte les chevaux castrés, puis avec ascendance. Mais dans le bétail pur sang, on l'évalue autour de 3500. Moi.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a donc ici ces juments qui sont des races pures canadiennes. Et il y en a une qui est presque noire, il y en a qui sont presque noires, et l'autre qui sont brun chocolat. Donc, on peut avoir une race pure dont la couleur n'est pas la même le temps.
La race n'a rien à voir avec la couleur. Parce que une race n'est pas la robe. Vous savez, une race, c'est la conformation, le type, la morphologie. Après ça, par une sélection artificielle humaine, vous savez.
De préférence.
Anthropogène, on peut dire qu'on vit, nous autres, dans la région de Montréal, on disait que les chevaux canadiens étaient des alezans, comme ceux-là, les roues. Et puis, dans le bas du fleuve, on veut des noirs. On préférait aller, vous savez. Quand il y avait des échanges, ils disaient, je vais te prendre ton blond, puis tu mon noir, parce que lui, dans la région chez eux, il y avait beaucoup de chevaux noirs, puis c'était pas bien vu un blond.
Mais ce qui est étonnant pour un cheval de trait, aussi un cheval fort, c'est que les membres sont relativement fins. Oui, c'est ça. Et c'est très beau, d'ailleurs.
C'est ça, oui. Ben, c'est ce qui permet d'être agile au cheval. Parce que le cheval qui est simplement fort, c'est pas toujours synonyme. Un cheval fort, c'est pas toujours synonyme d'endurance. C'est deux vertus différentes, l'endurance puis la force. Le cheval canadien conjugue les deux.
Alors donc on a...
Ça, c'est un cheval polyvalent.
Oui, canadien... puis en plus, il est assez gourmand. Il vient essayer de manger mon micro. Là. Ça va faire, toi, là? Non? Donc ça va bien pour les chevaux canadiens. On va aller maintenant... On les entend, ils sont juste de l'autre côté du chemin. On va aller voir maintenant la poule Chanteclair, qui, elle, bon, on n'est pas tout à fait dans la même situation.
C'est un groupe de reproducteurs. On met le ratio de un coq pour 10 poules. C'est le ratio. Puis ici, j'ai une cinquantaine de poules. Il y a 7 coqs. Il y a un ou deux coqs de plus que le ratio parce que j'ai deux vieux coqs là-dedans. Puis histoire de restimuler, on appelle ça du spiking en élevage. On met quelques coqs de plus. Là, le bâton, il s'installe. Vous avez vu tantôt, ça se bâton. Là, ça restimule la ponte aussi. Puis aussi, ben là, l'accouplement est mieux parce que quand il faisait chaud, même, là, il y a une baisse un petit peu, ça fait grandir.
Alors donc, la poule Chant de Clair, il faut la présenter.
Comme vous pouvez voir, bon, la poule Chant de Clair blanche, évidemment, la race, la Chant de Clair, il y a d'autres couleurs, mais la Chant de Clair blanche, c'est la plus ancienne, celle qui a été développée à la Trappe d'Oka. C'est le révérend Wilfrid Châtelain. Lui, il s'est aperçu qu'au Québec, on a notre cheval canadien, on a notre vache canadienne. Malheureusement, on n'a plus notre cochon canadien et notre mouton canadien qui est éteint. Mais là, lui, il dit, on a une poule gauloise à l'inverse du cheval et de la vache canadienne qui est de la loi du plus apte, qui est une adaptation du plus fort. Chez les volailles, c'est différent parce que la grande crête des coqs puis les grands barbillons, ça symbolise la masculinité puis c'est les coqs qui sont les plus masculins qui sont nantis. De grandes crêtes et de grands barbillons. Les coqs qui avaient les moins grands barbillons, là, puis les crêtes les plus courtes.
Donc, ben, les moins beaux mâles.
Les moins beaux mâles. Les autres passaient l'hiver parce que les autres, ils venaient tellement geler, la crête le gelait, la nécrose, puis les barbillons, la nécrose s'installait, donc les coqs, les bons coqs mouraient. Donc, les coqs qu'on appelait efféminés, les radais, les autres, ils pouvaient accoupler les poules. Il y a eu une dégénérescence beaucoup de la race, de sorte qu'on n'était plus capable de la reprendre. Le frère Wilfrid dit il faut créer une race canadienne.
Adapté
comme notre cheval canadien, notre vache canadienne, mais qui aurait des attributs que ça ne serait pas une dégénérescence. Il faudra justement, vu le froid que maganent les crêtes puis les barbillons, parce que ça, c'est un radiateur. C'est les barbillons puis la crête, là. Le sang passe là-dedans, puis eux autres, ils ont beaucoup de plumage puis ils ne transpirent pas. Fait que le sang, il passe là-dedans, se refroidir comme un radiateur d'automobile, une grande crête. Puis c'est vraiment inutile un radiateur au pôle Nord. On sait, on met des cartons devant l'hiver, devant nos autos. Et puis là, Wilfrid a saisi ça, lui dit, là, on va prendre... Là, il va se constituer une race à partir de 4 ou 5 races qui ont le plus eu de succès au Canada. Il y avait la Leghorn qui pondait très bien, mais qui n'avait pas de viande. Elle était vigoureuse, mais était très fragile. Le Corniche, lui, est justement une race qui descend du Mallet. C'est une race avec des petits barbillons courts puis des crêtes. Mais il y a un plumage bien, bien... Il est frileux parce qu'il y a un plumage bien court. Mais par contre, lui, sa crête, c'est parfait. Ça, sa crête-là, il gèle jamais la crête, là, sa race-là. Donc, là, voilà le géniteur. Mais lui, c'est une petite race à viande très musclée, mais qui profite tranquillement. Donc, le coq mêlé portant la crête courte, avec la légende qui était bonne pondeuse, en fait, une race à une demi-race. Vous savez, un hybride, là, qui était chair et ponte. On a couplé ça avec un autre croisement. Les autres races qui avaient bien fait, c'était la Rhode Island et la Wyandotte. Fait que la Wyandotte et la Rhode Island se sont accouplées. L'hybride numéro 2 avec l'hybride numéro 1 de la Leghorn et de la Corniche ont été croisés. Puis il s'est aperçu qu'il manquait qu'un petit boost de croissance rapide. Là, il a fini avec le croc Plymouth blanc.
Vous êtes en train de décrire l'animal idéal?
Oui. L'animal idéal, Wilfrid, lui-là, il l'a pensé. Alors, lorsque son modèle a été fait, là, il a fixé les caractères pendant 12 ans d'accouplement restreint, un petit peu en consanguinité pour fixer les caractères, pour devenir une race. Une race, c'est toujours un paquet d'animaux en vase clos. On est où? Il a fait ça pendant des années pour fixer les caractères. Il cherchait un dos long, une crête courte, une crête en forme de coussin, un petit coussin rond, des petits barbillons très courts, réduits, avec un dos long pour synonyme d'une poitrine longue, avec des épaules larges comme le corniche, pour avoir de la viande comme le corniche, puis la croissance rapide comme le roc, puis la ponte comme la Leghorn, puis la persistance en hiver comme la Rhode Island. Comment allez-vous?
Et aujourd'hui, la situation, c'est quoi? Donc, elle a failli disparaître il y a quelques années?
Oui, elle a failli disparaître, oui. Vous savez qu'en 86-87, là, on la croyait disparue. On disait, il n'y a plus de Chant de Clair. Il y a des gens qui venaient, qui s'informaient de la Chant de Clair. Il y a des Américains qui avaient des collectionneurs de races. Ils disaient, hey, la Chant de Clair, il appelait au ministère de l'Agriculture, ils ont appelé d'un couvert. Les couverts, ils ont dit, on n'a plus ça. Fait qu'ils ont appelé à la Trappe d'Oka, mais le frère Wilfrid est mort en 1963. Et puis quand il est mort, je pense que ça faisait un an ou deux que son poulailler était formé, puis il était en chaise rentre, puis il ne savait pas. Fait que le Chant de Clair avait pris de bord. Là, aujourd'hui, le projet de la Chant de Clair, qui va lui donner une bonne chance de survie, c'est qu'on a obtenu avec les fédérations les producteurs de volailles, le syndicat d'œufs d'incubation, puis la Fédération des producteurs d'œufs de consommation, ces trois organismes qui ont des plans conjoints. On a obtenu des droits de produire pour la sauvegarde avec un plan que le Dr Fred Silverside, un génétien avicole de renommée canadienne, a fait un plan établissant 10 troupeaux de 150 reproductrices qui pourra produire chacun 30 000 œufs, donc 300 000 œufs du champ de clair, car elle doit être incubée par année, pour faire la chair avec de champ de clair, dans une niche spéciale, parce que c'est pas une croissance rapide comme les races de l'industrie d'aujourd'hui. Là.
Donc, on peut dire que la chambre claire, là, qu'on croyait disparue il y a 20, 25 ans, aujourd'hui, elle est sauvée?
Bien, en tout cas, toutes les chances sont mises de l'avant pour la sauver. Il y a un projet, il faut remercier les fédérations de volailles, le ministère de l'Agriculture qui nous épaule, parce qu'on a fondé une fédération de races du patrimoine pour, justement, comme le cheval canadien, puis la poule chambre de terre, puis la bovin canadien, on va s'occuper de génétique.
Alors, donc, on s'en va maintenant, on va aller voir maintenant donc la troisième espèce patrimoniale, donc oui. La vache canadienne, on y va. Alors là, André Auclair, on est devant une autre partie de votre troupeau, là, maintenant, c'est des vaches canadiennes.
Oui, c'est sûr, on voit une douzaine de vaches ici, là. La race canadienne, elle, est un peu comme notre cheval. Hein? C'est une race ça travaillait autrefois. Avant que les chevaux arrivent, c'est ça qui a souché le pays. Ça vient du littoral breton, ça, puis normand, cette race-là. On dit qu'il y avait une race de vaches qui n'a pas beaucoup d'années, qui est disparue en France. Ça s'appelle la brune de Guingamp, qui avait la couleur des plus brunes un peu. Là, voyez-vous?
Oui, la couleur, alors donc, ça va de noir à brun foncé, c'est brun
ça,
chocolat.
C'est ça, en passant par le roux. Voyez-vous, vous en voyez qui sont comme rousses. Là.
On voit ici, il y a aussi un taureau hein, qui est oui, magnifique, qui nous regarde, oui. Il frotte un peu du pied. Là.
Oui, il nous avertit, approchez pas trop proche de mes vaches. Hein, le taureau, c'est un taureau. Mais il est assez gentil, celui-là. Quand même, avec mon petit chien de garde, il respecte bien mon chien.
Mais on l'entend grogner, là.
Vous l'entendez grogner, là? Bon, voyez-vous, c'est ça, j'ai des tards, c'est que c'est la première fois qu'ils sont assaillis par le taureau. Puis j'ai des vieilles vaches aussi, là.
Une race canadienne qui est...
C'est très fertile, ça a beaucoup de longévité. Ça a des qualités de rusticité. C'est une économe productrice. Vous savez, avec peu, elle produit beaucoup.
Alors, cette vache-là, la vache canadienne, a été développée ici, donc? Oui. Pareil, pendant la colonie, c'est ça?
C'est ça, oui. Jacques Cartier, lui, a amené en 1541 des vaches, de Bretagne, surtout. Et puis, Champlain, en 1608, en a amené, lui, la Normandie. On pense bien que Cartier, ses vaches, il n'a pas resté grand-chose de ça. Peut-être quelques sujets, mais le caractère, le type qu'on voit, d'après les connaissants comme M. Laurent Avon de France... Il reconnaît beaucoup plus les caractères bretons dans la vache canadienne.
Alors, la vache canadienne, elle a failli disparaître.
Ah oui, oui, oui. Récemment, là, la canadienne, on compte 167 femelles de race pure, de race pure, j'entends, 4 générations successives de taureaux purs. Parce que le problème de la canadienne d'aujourd'hui, c'est qu'on a des taureaux croisés avec des vaches ascendantes qui sont déjà pas pures. Des taureaux pas purs et des vaches pas pures.
C'est possible de penser qu'on va sauver la vache canadienne?
Il faut mettre l'effort. Il faut mettre beaucoup d'effort. Puis il faut penser à comment précieux ça peut être.
Pourquoi c'est important? Là, on a parlé donc des chevaux, des vaches, des poulets, la poule Chantecler. Pourquoi c'est important de sauver ces espèces-là?
Bien, vous savez, c'est une question à plusieurs réponses. C'est un besoin culturel, c'est une identité. C'est un besoin génétique. La diversité génétique, ça assure la souveraineté alimentaire de la planète. Vous savez, le monde, l'humain, là, il a ramassé des animaux dans la nature, dans l'époque sauvage. Il en a domestiqué. Puis il y a un travail de millénaire pour faire des animaux domestiques. Ensuite, une histoire de centenaire pour faire des peuples, des cultures comme le nôtre, qui a eu des compagnons qui étaient des végétaux puis des animaux. La domestication, là, c'est un travail pour le besoin du climat, de l'économie de l'époque. Parce qu'avec les moyens de fortune qu'on avait au Nord, c'est pas comme aux États-Unis, qu'est-ce qui prospérait bien ici, dans notre climat, puis avec nos ressources, c'était ce qui s'est adapté. Ce qui s'est les pas bons ont disparu. Il y a un gaspillage énorme de perte des races domestiques. Le danger, c'est le futur. La bande de génétique au service de l'humanité, elle rétrécit énormément. On a perdu quasiment les trois quarts de nos besoins en génétique. Tout le monde veut le faire sauver le kangourou, tout le monde veut sauver la panthère des neiges. Par contre, personne ne pense qu'ici, qu'il y a une race qui a 400 ans d'existence, qu'elle a aidé l'humain, puis qu'elle a certains potentiels qu'on ne trouve pas dans une autre race. personne, puis qu'elle pourrait être besoin pour toute l'humanité demain. Moi, je pense que moi ici, je travaille pour chez toi. J'ai simplement trois races d'animaux, puis je m'intéresse à nos végétaux. On a aussi des végétaux. On a la fève Caron, la fève Fortin, le navet Fortin, puis le rancien, puis on a la tomate Savignac, du frêne. On a les concombres Tantalis. Mettez-en, on a un beau jardin aussi.
Vous êtes un vrai exemple de biodiversité, vous.
Bien sûr. On a nos animaux, on a nos végétaux, mais on manque pas de grand-chose. C'est vrai, mais ça, c'est une assurance.
C'était André Auclair, éleveur de Saint-Paulin dans la région de Trois-Rivières et directeur général de la Fédération de producteurs des races patrimoniales du Québec. La semaine prochaine, notre série sur la biodiversité se poursuit, bien sûr, et Gaëlle Lucia Berdou nous emmène en Outaouais à la recherche de la tortue mouchetée. Alors, il y a un endroit en ce moment où vous pouvez d'un seul regard embrasser le crâne d'un Cro-Magnon et celui de Descartes. Oui, René Descartes. En prime, vous verrez aussi la petite Lucie, notre ancêtre, quelques peintures rupestres, des vilebrequins pour faire des trépanations. Cet endroit, c'est le musée de la civilisation à Québec, où l'on présente l'exposition Copyright humain jusqu'au 6 septembre. Ce copyright, c'est celui de la pensée. Alors, qu'est-ce que la pensée? Qu'en est-elle dans notre évolution? Où se loge-t-elle dans notre corps? Que deviendra-t-elle avec les développements de la technologie? Sophie-André Blondin a visité cette exposition « Réflexion sur la pensée » et voici en rappel son reportage.
Bienvenue dans l'exposition « Copyright humain ». L'exposition que vous allez visiter porte sur la pensée humaine. C'est notre copyright.
Le mot « copyright humain » est arrivé, on s'est dit « oui, c'est ça, ça colle très bien » parce que dans le fond, ce qu'on représente tout au long de l'exposition, c'est vraiment les résultats tangibles de l'imagination humaine. Monique Lippé, chargée de projet au Musée de la civilisation. On a divisé l'exposition en trois grandes zones. D'abord le prix humain, l'humain et le post-humain. Donc, dans le prix humain, ce qu'on appelle la pensée fossile, on commence l'exposition avec deux tableaux qui ont été réalisés par le chimpanzé Congo dans les années 50, qui étaient supervisés par Desmond Morris.
Les peintures que vous voyez à votre gauche sont le fruit de Congo, un chimpanzé vivant au zoo de Londres dans les années 1950. Le zoologiste Desmond Morris lui a donné un pinceau et des couleurs afin d'explorer la créativité chez l'animal. Les photographies de grands singes à votre droite n'évoquent-elles pas une profondeur d'esprit? Un moment de réflexion.
Ces photos-là, on les a sélectionnées.
Ils se grattent le front, c'est ça, le menton.
Et le regard toujours qui laisse penseur.
Alors, on tombe à l'humain, ou en tout cas aux origines de l'humain.
Aux origines. Alors, on a traduit ça par le biais d'un arbre phylogénétique. Et celui-ci, on l'a fait avec notre chercheur, collaboratrice, paléo-anthropologue Michel Drapeau de l'Université de Montréal.
On se doutait que les espèces, les hominidés étaient bipèdes avant la découverte de Lucie, mais avec Lucie, ça a vraiment confirmé là, que c'était le cas.
Ensuite, on arrive à la section où on va parler un peu plus en profondeur de l'importance de la bipédie. On a pris comme exemple Lucie, qui est probablement l'hominidé.
Qui est là? Elle est
oui,
là?
Oui, la plus connue. On a volontairement décidé de la placer sur une plateforme très basse pour que les gens voient bien comment elle était petite. Et on a aussi, avec nos techniciens, on a voulu la présenter en trois dimensions parce que souvent, les ossements de Lucie, c'est une reproduction, évidemment, parce que l'original est en Éthiopie. On a voulu, nous, la mettre en trois dimensions, la mettre debout, en état de marche. Alors, toujours avec l'aide de notre paléo-anthropologue, on a réussi à lui donner un mouvement le plus près possible de la réalité de ce qu'on s'imaginait être à cette époque.
Elle est vraiment petite.
Hein? Oui, vraiment petite. Trois pieds à peu près. Alors, on a une vidéo avec toujours notre paléo-anthropologue qui explique l'importance de la bipédie et l'expansion du cerveau.
À partir du moment où on est bipède et qu'on est exclusivement bipède, c'est-à-dire qu'on a abandonné la niche arboricole, nos mains ne servent plus du tout à la locomotion.
Donc, on a...
Alors, on a aussi deux objets majeurs dans l'exposition, un crâne de Cro-Magnon et le crâne de Descartes.
Alors, le vrai crâne Descartes.
Le vrai Descartes. Enfin, le muséum nous dit que c'est le vrai.
Mais c'est dans ce crâne-là qu'est née la phrase.
Je pense donc je suis. Alors, pour nous, c'était vraiment un incontournable.
Le Musée de l'Homme reconnaît ce crâne comme celui de René Descartes. Et c'est ainsi que nous vous le présentons. Il n'y a que la science, si chère aux philosophes, qui pourrait éventuellement clarifier cette question.
Je suis Michel Maziade, psychiatre, chercheur en génétique des maladies neuropsychiatriques et directeur du Centre de recherche Université Laval Robert Giffard.
Ça fait très drôle, effectivement, de se retrouver et de balayer d'un regard le crâne de Descartes qui est devant nous et le squelette de Lucy. Oui. Qui est à notre droite.
C'est impressionnant parce que ça nous montre que nous sommes tout petits. C'est un penseur qui a forgé l'orientation de la civilisation. C'est très impressionnant. Et une autre raison, c'est que la pensée, historiquement, scientifiquement, n'a pas toujours eu son siège dans le cerveau. Puis à l'époque, on n'avait aucune idée des neurones, des milliards de neurones et tout, là. Donc c'était une intuition géniale. Je pense, donc je suis, de Descartes.
Et seulement ici peut-on passer de Homo habilis au crâne de Descartes, suivez-moi, en passant à côté du squelette de Lucy, l'australopithèque tout petite, pour se diriger vers le cerveau objet de science, le cerveau objet d'étude, et là c'est votre spécialité à vous, le cerveau quand il va bien, siège de la pensée, le cerveau quand il va moins bien aussi.
Quel est le lien entre le cerveau et la pensée? Il est fondamental, puisque la pensée est enracinée dans les méandres du cerveau. Pourtant, les scientifiques et les philosophes se sont longuement questionnés sur le siège de la pensée.
Ça nous permet de nous remémorer qu'il y a à peine, dans les années 50 à 70, nous pensions internationalement que ce qui créait une déviation de la pensée vers la schizophrénie ou la psychose maniaco-dépressive, c'était l'éducation prodiguée par la mère. Mais on sait maintenant que... il y a des vulnérabilités génétiques qui, à elles seules, ne peuvent pas créer la maladie. Donc, il faut que certains facteurs dans l'environnement, physiques, viraux, psychofamiliaux, interagissent avec la vulnérabilité génétique pour nous orienter la personne vers le parcours.
Et une chance que pour déterminer tout ce dont vous nous parlez, vous n'avez pas utilisé soit des tranches de cerveau comme on en voit ici, parce que non, c'est des cerveaux plastinés.
Oui, puis c'est l'époque d'il y a un siècle. C'était extraordinaire de commencer à étudier l'anatomie du cerveau. Et historiquement, pour les malades en psychiatrie au début du siècle, vous savez, on les saussait dans l'eau froide ou l'eau glacée. On essaie de trouver des moyens. Les médicaments sont arrivés en 1952 seulement. Moi, comme médecin résident et interne au début des années 70, nous pratiquions encore l'insulinothérapie lorsque les médicaments ne fonctionnaient pas chez les malades sévères. Donc, nous passions les patients psychiatriques en coma diabétique et nous les ramenions, ce qui donnait un certain effet. Alors, on oublie toutes ces choses-là.
Dans la partie sur le cerveau, on a aussi des documents vidéo, dont une opération du cerveau qui a été réalisée en février 2009.
Alors, on les voit justement en ce moment avec la bistouri.
On a vraiment, cette opération-là dure plus de 6 heures, mais nous, on a pris le document, on l'a réduit à 4 minutes avec vraiment pour montrer les séquences en particulier où on voit le patient qui est conscient et qui répond au chirurgien pour le guider, en fait. Alors, ça démontre aussi en même temps les avancées technologiques en neurosciences.
Une chance, d'ailleurs, parce que quand on avance dans l'exposition avec les anciens instruments, on tombe sur un crâne percé. Une chance que la science a changé.
Oui. Puis quand on voit la grosseur des instruments pour faire les trépanations, il y a à peine 50 ans, ça donne des frissons. Mais en même temps, on se dit que c'est comme ça que la science a évolué. Je pense que c'est important de montrer ces outils-là. Ça fait toujours un peu... on voit quand même la grosseur du vilebrequin, là, si on peut dire.
Oui.
Alors,
Et si les gens veulent en savoir encore plus, il y a même le docteur Parent qui peut leur expliquer.
Le centre de recherche Robert Giffard, qui nous parle en fait du langage neuronal.
Communiquer entre eux, se parler entre eux. En fait.
Certains neurones, on les dit par exemple unilaires, parce qu'ils utilisent une seule molécule pour communiquer avec le neurone suivant dans la chaîne.
On avance dans l'histoire de notre pensée.
On débute la section sur un animal culturel, donc l'humain. Et dans cette première section, on veut démontrer l'importance du rituel et ce qu'on appelle l'art signé Homo sapiens. On présente différentes pièces, donc des plaques de grottes avec des peintures rupestres qui nous viennent de Mauritanie. Et on a un corps des tourbières. Tout ça toujours dans le but de démontrer que l'humain a commencé à vouloir enterrer ses morts, donc à créer des rituels, donc à réfléchir à l'au-delà, finalement.
Avoir conscience de sa propre existence,
exactement,
de sa
mort. Et donc, tous les objets qu'on a choisis pour cette zone-là sont toujours en lien avec cette idée. On a une urne funéraire qui vient du Landesmuseum avec des restants humains à l'intérieur, calcifiés.
Penser, c'est organiser la réalité, c'est classer, exactement, c'est calculer, exactement, c'est observer. Alors, et c'est ce qu'on voit.
Donc, c'est la troisième partie sur la parole, les langages, que vous l'avez dit, l'écriture, les instruments de navigation, la cartographie, le collectionnement. Enfin, tous ces objets qui sont témoins de toutes ces préoccupation de l'humain pour toujours mieux comprendre son environnement et le monde dans lequel il vit.
Les jeunes qui ont des calculatrices de poche, oui, seront intéressés de voir une calculatrice ou une calculette,
absolument,
en tout cas un instrument beaucoup plus gros.
Oui, un petit peu plus gros. La pascaline inventée par Blaise Pascal.
Et la lunette de Galilée à côté.
Exactement, oui, c'est ça.
La lunette?
Oui.
Une
des lunettes, il y en a plusieurs. Alors, on arrive aussi toujours à cette zone de transition avec des œuvres artistiques qui... on a entre autres une œuvre de Robert Racine, l'artiste québécois, qui travaille avec les dictionnaires, l'idée du mot, l'assemblage. Donc, il va triturer les pages de dictionnaire.
Enlever des mots.
C'est ça, mettre un miroir derrière. Alors, on est vraiment dans le... Comment dire, l'abstraction, comment la pensée humaine est capable d'aller vers l'abstraction.
Avant d'aller à l'abstraction, elle a été très concrète. Vous avez ici une roue romaine.
La roue romaine. Donc ici, on est dans la section, la dernière partie sur la pensée humaine, c'est-à-dire l'idée, la capacité de l'humain à créer autant de l'art que des objets du quotidien. Donc, cette roue-là date de plus de 2000 ans. C'est une des rares conservées parce qu'elle était dans les tourbières aux Pays-Bas.
Vous travaillez toujours debout, je pense, ou à peu près toujours debout. Oui, mais j'ai quand même
je ne voudrais pas oublier cette section-là qui est une collaboration avec Stéphane Bureau, la série Contact. On a choisi des extraits avec des créateurs qui nous parlent du fonctionnement de l'évolution de la pensée créatrice, comment ils arrivent à créer les œuvres, chacun dans leur domaine. On a Robert Lepage, on a Éric-Emmanuel Schmitt et
Enki Bilal.
Enki Bilal, le grand BDiste. Alors, c'est vraiment intéressant de les écouter parler de leur processus créatif.
Et j'aime le chaos. Je suis quelqu'un qui aime l'insécurité, l'incertitude, le manque de structure. J'adore la désorganisation. C'est là-dedans que les choses les plus intéressantes poussent.
Et là, on quitte l'humain pour aller vers le post-humain. Là.
C'est ça, exactement. On introduit la zone sur le post-humain avec l'œuvre. C'est une commande, en fait, que le musée a fait auprès de l'artiste québécois Louis-Philippe Demers, qui est un artiste roboticien.
Je me sens observée tout d'un coup, là.
Oui, c'est ça. Alors, il y a 60 crânes avec des yeux qui sont dotés de caméras et qui sont capables de détecter les visages.
Donc, il sait que je suis là, il me suit des yeux.
Oui, c'est ça. Alors, qu'ils réagissent à la présence de visage. Pour nous, c'était une manière d'introduire à la post-humanité. Alors, qu'est-ce qui attend l'humain à travers les avancées technologiques? Et on termine l'exposition avec une installation multimédia.
Alors, on est parti de l'idée de faire des entrevues avec des penseurs de notre époque qu'on considérait comme importants. On a entre autres Albert Jacquard, Hubert Reeves, on a le moine bouddhiste Mathieu Ricard.
Notre collaborateur Yves Gingras.
Yves Gingras, exactement, et chercheur sur notre projet. Alors, on demandait à ces gens-là sensiblement toujours les mêmes questions, à savoir est-ce que la technologie va influencer la manière de penser des humains, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années. Et on a voulu vraiment concentrer le discours, ne pas aller en futurologie, c'est-à-dire de se retrouver dans 50 ans et tout ça, mais d'aller vers un futur proche.
Ce qui m'intéresse pas, c'est l'humain, c'est le surhumain.
Le lien entre la pensée et le corps, bien évidemment, en neurobiologie contemporaine, c'est la grande question.
There are two aspects that are special about human thinking. One is that we recognize.
Avant qu'on me convainque qu'un robot peut penser, je pense que tout ça va dépendre du sens qu'on veut donner à penser. Et une belle réflexion sur ça, c'est le fait.
Et vous terminez sans donner à voir. C'est sombre ici, il y a des petits cubes si on a envie de s'asseoir. Oui. C'est comme si vous terminiez en disant arrêtez de regarder maintenant, pensez.
Exactement. Puis l'installation est travaillée sur la réflexion. Alors, on a des téléviseurs au plafond qui reflètent une image sur un écran et qui reflètent aussi dans des plaques de verre qui sont au sol. Donc, on peut s'asseoir et regarder. On a l'impression de regarder dans un trou noir et de voir là des mots, de la pensée. Donc, c'est tout ça est très symbolique et conceptuel. C'est ce qu'on a voulu pour terminer l'exposition.
Merci beaucoup de cette visite.
Ça m'a fait un grand plaisir.
C'était un reportage bien pensé de Sophie André Blondin. Sophie André qui était guidée par Monique Lippé, chargée de projet au Musée de la Civilisation. Alors l'exposition Copyright Humain est installée au Musée de la Civilisation à Québec donc jusqu'au 6 septembre. Mais si vous ne pouvez pas vous rendre au musée, le musée peut venir à vous. Un micro-site internet regroupe les informations, les extraits audio-vidéo qui accompagnent les visiteurs. Puis une visite par la pensée que vous pouvez faire donc, à laquelle on accède par le site du Musée de la Civilisation. L'adresse internet est sur notre site des Années-Lumière. C'est-à-dire, nous passons à l'auteur de la semaine. Nous avons cinq sens. Mais d'où viennent-ils? Comment l'évolution a-t-elle mené à ce que nous disposions de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût pour entrer en relation avec tout ce qui nous entoure? Les plantes ont-elles des sens, elles aussi? Claude Gudin s'est posé toutes ces questions et bien d'autres dans son dernier livre intitulé « Une histoire naturelle des sens ». C'est publié aux éditions du Seuil. Chercheur en microbiologie végétale, il a aussi signé des histoires naturelles de la séduction, de la mort, du poil, on s'en rappelle, et des poèmes et des chansons. Il détient le titre de régent de batibiologie spéculative au collège de pataphysique. Ça, c'est adorable. Alors, on comprendra que Claude Gudin n'est pas dépourvu d'un autre sens, le sens de l'humour. Sophie André Blondin lui a parlé depuis les studios de Radio Bleu en France, en commençant par le tout début de l'histoire de nos sens, il y a 3 milliards 600 millions d'années.
Ça a démarré dès le début, mais ça a mis longtemps avant d'accoucher de notre cerveau d'Homo sapiens qui concentre toutes ces informations données par les cinq sens et qui les transforme en, oserais-je dire, en intelligence, qui nous permettent de réagir par rapport à notre milieu.
Alors, à travers les sens, on peut aller vers l'intelligence. C'est un chemin qu'on peut faire ensemble, si vous le voulez bien. Vous dites au départ, la nature disposait de peu d'outils pour les construire, quoi? Quelques dizaines d'atomes, c'est ça?
Ah oui, oui, tout à fait. Le vivant est constitué de très peu de choses, hein, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, et il contient surtout beaucoup d'eau. Ce qui est un souvenir d'ailleurs de nos origines, puisque la vie est née dans l'océan primitif il y a 3 milliards 600 millions d'années. Et lorsque les êtres vivants ont conquis la Terre, la partie terrestre, elles ont dû finalement trimballer cette eau, cette mer intérieure. Donc en fait, on est très peu de choses, finalement. On a quand même, bon, je vais oser une expression, mais on peut dire que l'homme est à queue.
Vous voyez, dans le sens de à queue, oui, en un mot.
Il contient 70% d'eau quand même, oui. En plus qu'il évapore beaucoup par transpiration. Donc quand il transpire, on peut même dire qu'il remue la queue. Vous voyez. C'est, Voilà un signe, voilà un vestige de notre mère intérieure. Vous voyez, on porte en nous toute notre histoire, toute l'histoire de l'évolution. Quant à la différence entre nos sens et le cerveau, elle est tout à fait minime, puisque les deux sont constitués de neurones, de nerfs. C'est la même structure chimique qui constitue le sens et qui nous amène au cerveau, qui est en quelque sorte une agglomération de cellules nerveuses, donc de neurones, qui partent de l'exploration du milieu extérieur à l'intériorisation des informations qui va constituer ce dont on parle aujourd'hui.
Alors, c'est un peu comme si le cerveau donnait du sens aux sens qui sont, absolument, eux, notre relation avec le milieu extérieur.
Oui, c'est tout à fait ça.
Alors, justement, qu'est-ce qu'un sens? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec 5 sens comme ça? Est-ce qu'il y a une raison dans l'évolution, dans la biologie? Et pour nous et pour les plantes, parce que vous êtes aussi intéressé surtout d'ailleurs au monde végétal.
Ah oui, surtout au monde végétal, oui. Écoutez, Jacques Monod a très bien exprimé ça dans sa phrase condensée. La vie, c'est le résultat du hasard et de la nécessité. En fait, tout apparaît par hasard. Les premières cellules vivantes qui nagent, bien sûr, dans cet océan primitif, ont besoin de rester en surface parce qu'elles sont photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles possèdent des chloroplastes qui leur permettent de transformer la lumière solaire en énergie chimique. Et il faut donc pour cela qu'elles restent en surface. Donc elles apprennent à nager avec deux prolongements cellulaires constitués de protéines qu'on appelle les flagelles. C'est pour ça qu'on appelle ces organismes-là les flagellés ou les ciliés. Et ils restent en surface grâce à ça. Donc, finalement, ils inventent la natation. Mais vous voyez, cette natation, elle a pour fonction de simplement rester en surface et de pouvoir capter les rayons du soleil. Mais peu à peu, la nature ayant déjà inventé ça pour la natation, quand il va falloir que les cellules se rencontrent, s'explorent, communiquent, elles vont se toucher par le bout des flagelles, se rapprocher éventuellement s'il y a compatibilité, si elles sont de bonne humeur et compatibles toutes les deux. Et là, on a déjà l'invention du toucher. Vous voyez, on passe de la natation au toucher, au rapprochement, à tel point d'ailleurs que ces cellules, si elles sont très compatibles, vont s'enlacer par les flagelles. Vous voyez, c'est 3 milliards 600 millions d'années, on commence déjà à s'enlacer, se rapprocher. Finalement, leurs protoplastes étant complètement liés l'un à l'autre, commencer à échanger leurs noyaux, c'est-à-dire leur matériel génétique, et c'est comme ça qu'ils inventent la fécondation. Vous voyez, donc on est parti de la natation avec deux organes apparus un peu par hasard et maintenus par nécessité pour nager, qui vont servir ultérieurement au rapprochement et finalement à la sexualité.
C'est un peu comme ça que ça s'est passé pour tous nos sens. On avait besoin de récepteurs, de capteurs pour recevoir les stimuli physiques ou chimiques comme la lumière ou comme les odeurs.
Absolument. Pour rechercher, et c'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs avec notre cerveau, pour rechercher quelle est la meilleure place pour trouver notre niche écologique, en quelque sorte, là où on est bien, là où on éprouve du plaisir. Et les animaux les plus rudimentaires, les unicellulaires, font exactement la même chose.
Et on n'a pas développé, l'évolution ne nous a pas fait développer des sens qui sont égaux, en tout cas égaux, et en grosseur, et en importance, et en nombre de récepteurs, par exemple. Il y a une sorte de hiérarchie dans nos sens.
Oui, il y a une hiérarchie, mais qui dépend beaucoup du stade de l'évolution et des différentes espèces. Alors, entre le monde végétal, par exemple, et le monde animal, il y a des différences absolument énormes. Et chez le monde végétal, il est difficile de parler de... Bon, ce ne sont pas des neurones, mais ils ont quand même des systèmes qui leur permettent d'imiter certains de nos sens. Les plantes communiquent entre elles par d'autres systèmes que les animaux, mais communiquent entre elles. Aussi bien par des systèmes, des odeurs, des molécules volatiles, que par le toucher.
Et vous donnez, Claude Gudin, dans votre livre Une histoire naturelle des sens, quelques-uns des exemples de ces plantes qui communiquent entre elles et qui, selon la nature ou selon certaines agressions, vont émettre des molécules qui vont parler aux autres plantes.
Ah oui, oui, tout à fait. Vous avez le célèbre exemple des acacias africains qui, lorsque leur écorce est broutée par des gazelles, ont un système de cicatrisation de l'écorce qui fait qu'elles se mettent à émettre une molécule très petite qui est l'éthylène. L'éthylène, à ce moment-là, est émise par le premier arbre qui va être brouté, mais cet éthylène est capté par les autres arbres qui ne sont pas encore broutés, mais qui vont, grâce à cet éthylène émis, qui est un signal d'alarme, se mettre à accumuler des tanins dans leur écorce pour que les antilopes ne viennent plus les brouter. Et ça va jusqu'au point que cette concentration en tanins dans l'écorce peut devenir toxique pour l'antilope et la tuer. Vous voyez, donc c'est un système d'alarme et de défense que les plantes ont inventé pour se protéger de certaines agressions.
Comme si la forêt sentait puis parlait.
Oui, absolument. D'ailleurs, il existe les mêmes relations entre les fleurs et les insectes. Vous savez que c'est ce qu'on appelle la coévolution. En fait, les insectes évoluent parallèlement avec les plantes à fleurs. L'abeille est dépendante d'un certain nombre d'espèces, de plantes mellifères, sur lesquelles d'ailleurs il va falloir que la structure de la fleur lui permette d'atterrir pour qu'elle puisse venir puiser le nectar. Et s'il y a une déformation dans la plante, l'abeille ne pourra plus venir la butiner et ne pouvant plus se nourrir, elle va disparaître. Donc on peut dire qu'il y a une coévolution des fleurs et des insectes. C'est la même chose pour les orchidées. Vous voyez, il y a certaines orchidées comme les ophrys qui poussent la question beaucoup plus loin et qui transforment l'un de leurs pétales, qu'on appelle le labell, qui le sculpte littéralement en un insecte femelle. On a par exemple des ophrys qui imitent des guêpes, d'autres des mouches, d'autres des abeilles. Et l'abeille mâle qui se promène en haut, voyant ce leurre, cette fausse femelle, atterrit dessus pour féconder la femelle. Mais en fait, ce n'est pas une vraie femelle. Donc, en s'excitant sur son dos, avec ses pattes poilues, eh bien, elle va brosser le pollen de l'orchidée et en féconder une autre, et ainsi de suite. Et elle va même pousser le vice jusqu'à... Cette orchidée va fabriquer... la phéromone femelle qui va attirer la complexité de la coévolution.
Et parfois, c'est pour se faire féconder, parfois, c'est pour carrément manger l'insecte. Et vous donnez, Claude Gudin, des exemples de plantes qui semblent être...
Alors ça, c'est dans le cas des plantes carnivores,
oui. Des plantes presque gourmandes, la drosera, entre autres, dont on ne sait pas exactement pourquoi elle attrape les insectes.
Oui, en fait, elle pourrait très bien s'en passer, puisque ce qu'elle va puiser dans les protéines des insectes et dans la chitine, c'est finalement de l'azote. Alors, elle pourrait très bien, elle est équipée pour utiliser l'azote du sol. Mais bon, ce sont des conditions d'environnement particulières qui l'ont amené finalement à s'approvisionner directement en insectes.
Et bon, évidemment, tout au long du livre, vous nous parlez de ces plantes et c'est très surprenant de voir dans le monde végétal l'importance de ce qui équivaut à nos sens, à nous.
Oui.
Je vous parlais d'une hiérarchie tout à l'heure dans les sens en termes d'importance. La vue, par exemple, comprend 135 millions de récepteurs, si j'ai bien compris.
Oui,
le
oui,
toucher,
c'est ça.
Seulement 7 000, Louis, 30 000. Pourquoi cette hiérarchie? On a moins besoin de toucher que de voir du point de vue de l'évolution?
L'œil, la vision est un organe beaucoup plus complexe que les autres. On comprend bien que le toucher, c'est relativement simple, puisqu'au fond, il suffit de deux petits prolongements cellulaires pour pouvoir se toucher. Donc, il n'y a pas besoin d'un très grand nombre de neurones.
De flagelles et le tour est joué.
Voilà. Alors que c'est extrêmement compliqué pour l'œil. L'œil est certainement l'un des organes les plus élaborés qui soit. Donc là, il a fallu une concrétion de beaucoup de neurones pour arriver à fabriquer ça. Et alors, un autre organe qui est également assez compliqué, c'est le poil. Le poil qui finalement, le flagel et le cil étant un poil, mais celui-là, il a été fabriqué une bonne fois pour toutes. Il a été fabriqué pour la natation. Il a servi au toucher Et comme quand l'évolution a inventé quelque chose d'intelligent, elle se torture pas pour le réinventer une deuxième fois, bah, elle a trimballé le poil un petit peu partout. Par exemple, ce qui nous permet de nous entendre actuellement, on capte les phonons, hein, les sons, grâce à des petits poils qui sont dans notre oreille, dans notre colchée. Hein, ce sont des cils qui captent directement ces ondes sonores. Quand on respire un parfum, eh bien, ce sont les cils, les flagelles de notre système nasal à l'intérieur, hein, notre système olfactif, qui capte les parfums.
Vous avez consacré tout un livre à l'histoire naturelle du poil, Claude Gudin, pour vous.
Qui était le livre précédent, oui.
Ça fait ce lien entre la nature et la culture, et vous nous le faites souvent avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, vous nous rappelez évidemment la biologie de l'évolution des sens, mais vous nous mettez beaucoup de culture là-dedans aussi pour faire le lien entre ce que nous faisons des sens. Il y a toujours un lien entre nature et culture quand on parle des sens et des sensations.
Absolument, puisque c'est tout à fait normal, le sens nous permet de tâter l'environnement, en quelque sorte, et on répond à ce tâtonnement par certaines actions qui se traduisent, grâce à notre cerveau, par la culture.
Et la culture, on l'aide un peu parce qu'on prolonge les sens maintenant. On a prolongé la vue avec des lunettes d'observation astronomique, avec des lunettes tout court. Oui. Est-ce que, on la prolonge aussi parce qu'on se parle et on ne devrait pas s'entendre. Vous êtes à Paris, je suis à Montréal. Donc, on a continué l'évolution de nos sens.
Oui. C'est quand même pas mal le cerveau humain, hein? C'est grâce à ça qu'on a construit tout ça, quoi. L'intelligence humaine est quand même quelque chose d'assez étonnant. Bon, je ne dis pas qu'il n'existe pas d'intelligence végétale ou d'intelligence animale, mais la nôtre nous a permis quand même d'aller beaucoup plus loin dans l'aménagement de notre niche écologique que celui des autres. Bien qu'il y ait certains animaux qui sont de véritables surdoués.
Par contre, notre cerveau nous a permis peut-être d'inventer le sixième sens qui, à vous lire en tout cas, je crois, est très important pour vous, qui est le sens de l'humour.
Ah bah oui, bien sûr.
Et pour vous, c'est important comme pataphysicien, puisque vous êtes aussi pataphysicien.
Ah oui.
De jouer avec les mots et ces concepts de l'humour.
Ah bah oui, tout à fait, oui. C'est la science des solutions imaginaires à des problèmes qui ne se posent pas. Mais ça ressemble beaucoup à l'évolution, ça, vous voyez.
Merci beaucoup de cette visite aux Années-Lumière, Claude Gudin.
Je vous en prie, Sophie, je vous remercie de m'avoir interviewé.
Je rappelle que votre livre s'intitule « Une histoire naturelle des sens » et est publié au Seuil dans la collection « Science ouverte ».
Et c'est là-dessus que se termine cette édition des Années-Lumière, une émission réalisée par Robert Lamarche. À la technique, Martin Boulanger, les journalistes Sophie-André Blondin, à qui nous souhaitons de bonnes vacances, et Gaëlle Lucia Berdou, journaliste au site internet Lily Boisvert, chroniqueur Marie-Dominique Beaulieu. Je vous rappelle vous pouvez nous joindre pour nous poser vos questions de science. Par téléphone de Montréal, c'est le 514-597-7166, et d'ailleurs au pays, c'est le 1-800-752-9050. Il y a aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. Alors, c'est Yannick Villedieu qui vous parle et qui part lui aussi pour quelques jours en vacances. Alors, la semaine prochaine, c'est Gaëlle Lucia Berdou qui sera à la barre des Années-Lumière. C'est donc un rendez-vous. Au revoir.